matin.
I said, are you gonna be my girl?
All right, bon lundi. J'espère que ça va bien pour vous autres. Avez-vous déjà pris votre café? Jeff, as-tu pris ton café?
J'ai pris mon café. Je suis encore en train d'en prendre, par exemple. J'aime
Max,
le café.
Pris ton petit café?
Je viens d'aller faire mon deuxième.
Quelle est la drogue la plus répandue dans le monde?
Le café.
Et le café. Moins 14 degrés sur Québec actuellement avec le vent en face. Ça ressemble à un moins 27 comme température ressentie. Aujourd'hui, c'est de la neige et de la poudrerie. Accumulation de neige de 5 cm. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Avant de passer à ce qui se passe sur la route, vous rappelez la défaite du Canadien 4-3 contre les Bruins de Boston samedi. Et Vegas joue contre le Canadien demain. Donc, le match est présenté à 19h. Puis, qu'est-ce qu'on présentera au Super Bowl? Ben, d'un côté, dans le premier match hier, c'est les Broncos qui affrontaient les Pats. Belle victoire des Pats, 17 dans un match qui n'avait pas... C'était pas le festival offensif, on va se le dire. Et dans l'autre match, on avait l'impression que c'était ça, le Super Bowl. C'est les Seahawks qui affrontaient les Rams. Et les Seahawks l'ont porté 31-27. Ce qui fait qu'au Super Bowl, dans deux semaines, ce sera les Pats contre les Seahawks. Et Max Larouche prédit une victoire des Seahawks de Seattle.
Oui, hier, autant hier, j'avais de la misère à mettre mon petit 2 sur les Rams parce qu'ils me faisaient peur en Simonac. Autant là, dans deux semaines, je veux pas être surconfiant. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un peu ça le défi pour les Seahawks maintenant. Là. On parlait tellement d'hier comme de la finale avant la finale que là, t'as quasiment l'impression de l'avoir
excellent
gagné, le Super Bowl. T'as intérêt à arriver là près quand même dans deux semaines.
Je comprends que Brady n'est pas là. Je comprends que le coach qui était là durant l'ère Brady n'est plus là non plus. Mais ne pariez jamais contre les Pats. Jamais. Mm. Hein, Jeff?
T'as raison.
Mais Mike... ça se peut que Max ait raison.
Ouais. Mike Vrabel, l'entraîneur des Pats, un ancien linebacker des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui a gagné des Super Bowls avec Tom Brady.
À la circulation, un petit peu d'attente pour le pont Pierre-Laporte direction nord, mais pour l'instant, à 6h32, ça se limite à ça.
La machine de news avec Max.
Trois personnes ont été gravement blessées dans une collision frontale hier vers 14h sur le rang Bois-Joli dans le coin de Saint-Apollinaire. Un conducteur a pris la fuite à pied après l'impact, a été arrêté par la suite. Il fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies et délit de fuite ayant causé des lésions. A été conduit au poste pour un test d'alcoolémie et demeurait détenu en vue de sa comparution. Aujourd'hui, les trois occupants de l'autre véhicule qui ont été hospitalisés pour des blessures sérieuses ont craigné pour la vie là, de l'un d'eux. Vincent Lacroix, figure centrale du scandale Norbourg, a terminé sa peine de 18 ans de prison, ne relève maintenant plus du tout de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Entre 2002 et 2005, l'homme qui est aujourd'hui âgé de 59 ans a fraudé au-dessus de 9000 investisseurs de plus de 100 millions de dollars dans ce qui est pour plus de 100 millions de dollars en fait là, pour ce qui est dans ce qui est considéré être le plus gros scandale financier de l'histoire du Québec. Il a été arrêté en 2006. D'abord, a été condamné pour des infractions là, liées à la loi sur les valeurs immobilières, puis a plaidé coupable à 200 accusations criminelles en 2009. Le juge qui lui a alors imposé une peine totale de 18 ans. Il a été libéré conditionnellement après avoir purgé le sixième de sa peine, a été soumis à des conditions strictes à ce moment-là. Ça incluait du bénévolat et un encadrement financier. Sa faillite personnelle, qui demeure d'ailleurs encadrée. Des décisions subséquentes ont noté son respect des règles et selon un ex-procureur interrogé par Radio-Canada, il pourrait légalement retravailler en finance, mais sous surveillance accrue. Il n'y a pas de loi là, qui permet de restreindre ses activités.
9200 investisseurs qui ont été fraudés, Jeff. Il a orchestré un détournement d'à peu près 130 millions de dollars canadiens. Et à un moment donné, il y a une journaliste qui lui a demandé « Monsieur Lacroix, l'argent est passé où? » Et Monsieur Lacroix a dit « L'argent est autour de vous.
Mm-hmm. »
Si j'étais un petit oiseau, je le surveillerais pour les prochains jours.
Oui, moi aussi.
D'après moi, on devrait peut-être trouver le chemin vers l'argent.
Oui, exactement. J'ai lu le livre sur ce scandale Norbourg, et livre très intéressant.
Ouais. Un beau grand manipulateur.
Oui, où on en apprend énormément sur ses techniques de manipulation.
Le bar Le Marshall de l'avenue Mira, Sainte-Foy, un petit bar étudiant le fun, devra passer devant le tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux. C'est ce que nous rapporte Le Soleil ce matin. C'est que le SPVQ s'oppose à ce qu'un permis d'alcool soit octroyé aux nouveaux propriétaires. On cite une problématique de tranquillité publique en lien avec l'exploitation de l'établissement, soit les liens entre le nouvel actionnaire et les bandes de motards hors la loi. On remet aussi en question la capacité et l'intégrité du nouvel actionnaire. Brian Marcoux, qui est l'unique propriétaire du Marshall depuis avril 2023, l'homme qui était aussi propriétaire du bar de danseuse L'Extase à Lévis jusqu'en 2024. L'avis de convocation envoyé en novembre au propriétaire du Marshall fait référence à des événements survenus à L'Extase où les policiers auraient constaté une vingtaine de reprises la présence d'individus d'intérêt comme des Hells ou des Red Devils. Contacté par Le Soleil, Brian Marcoux parle d'une pression policière, dit n'être relié à personne et à rien de ce monde-là. Mais en 2024, il plaidait notamment coupable face à un chef de trafic de stupéfiants. Le Marshall, qui est fermé depuis le mois de novembre dernier, mais on nous dit que cette fermeture-là serait reliée à un enjeu financier et n'aurait aucun lien là, avec la Régie des alcools.
Ouais, il n'y a pas une cause qui est pendante, une cause criminelle dans son cas, qu'on devrait revoir en 2026?
Oui, ben c'est ça, c'est en lien avec le fait qu'il ait plaidé coupable et là, pour la suite des procédures, là, voilà. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Course à la chefferie de la CAQ, deux candidatures qui ont officiellement été lancé, confirmé en fin de semaine. Christine Fréchette et Bernard Drainville qui tenteront de remplacer François Legault et devenir premier ministre du Québec. Samedi, M. Drainville qui a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'il se lançait. Il veut rester fidèle à l'ADN de la CAQ, un nationalisme de centre-droit enraciné dans nos régions et porté par le courage et la passion, ainsi que représenter le vrai monde. Christine Fréchette s'est de son côté lancée hier devant les médias à Trois-Rivières. S'est présentée entourée de 5 ministres et d'une dizaine de députés qui l'appuient. La période des questions des journalistes qui nous a permis d'apprendre que Mme Fréchette avait rencontré Martin Koskinen, le bras droit de François Legault, au début de l'année 2026. Puis il a comme passé le message à ce moment-là que ce serait pertinent qu'elle réfléchisse à peut-être s'entourer en vue d'une candidature pour devenir chef de la CAQ. On comprend qu'elle partait avec une petite longueur d'avance. Elle avait eu un petit inside. À noter que le ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, a annoncé, lui, qu'il ne se lancerait pas malgré des appuis reçus, semble-t-il, durant sa réflexion.
Ah, il y avait beaucoup d'appuis, M. Simon.
Vraiment beaucoup d'appuis.
Vraiment beaucoup d'appuis. Il répondait toujours au téléphone.
Ouais, j'ai hâte de voir. Bernard Drainville l'a pas joué comme ça. Tout le monde en parle. Je pense qu'il n'a pas été questionné là-dessus. Mais Christine Fréchette est la candidate de l'establishment de la CAQ.
Ben, tu sais quoi? S'il y en a un qui peut renier sa famille, là, c'est ben, pas sa famille directe, ouais, mais sa famille politique, c'est Bernard Drainville. Parce qu'il a mentionné dans sa vidéo qu'il était de centre-droit économique.
Exactement.
Alors que du temps où il était au PQ, il n'a jamais été de centre-droit économique. Du temps où il était analyste à la télé, à la radio, il était très à gauche. Puis avec un parti qui était la Coalition Avenir Québec, qui a fait une première campagne électorale en 2017 où il disait « On va réduire la taille de l'État, il y aura moins d'intervention de l'État avec les grosses entreprises. » Ben finalement, ils ont gouverné, ils ont fait une campagne de centre-droit, mais ils ont gouverné très centre-gauche, puis ils ont été très interventionnistes. Ils ont perdu énormément d'argent des Québécois. Et Bernard Drainville a fait partie de ça.
Ouais.
Et là, lui se dit de centre-droit. D'ailleurs, Éric Duhem, il a dit un peu...
Très belle réaction d'Éric Duhem, soit tout en passant.
On faisait une émission ensemble, toi puis moi, puis c'était moi qui étais de centre-droit, puis toi, t'étais très à gauche.
Puis on disait que c'était le choc des opinions.
Fait, je pense que la stratégie de Bernard Drainville, ça va être de renier sa famille politique.
Ouais.
Et de dire, ben moi, je suis maintenant rendu de centre-droit, j'ai évolué, tout le monde peut changer. Si moi, je peux changer, alors tout le monde peut changer. Non, ça, c'est Rocky. Hein?
Ouais, c'est Rocky.
Tout le monde peut changer. Mais Drainville va renier l'ère Legault.
Oui.
Et tu sais quoi? Si jamais il devient chef, puis il prend le contrôle de la Coalition du Québec, ils vont rester centre-gauche.
Oui.
Ouais.
Parce que Bernard Drainville est quelqu'un de centre-gauche.
Oui, mais le fait de mentir, c'est pas une bonne stratégie.
Non, en effet, tu as entièrement raison. Ceci dit, il se positionne déjà comme le candidat du peuple. C'est les militants qui vont voter, non pas les députés qui appuient Christine Fréchette.
Puis là, on sent qu'il y a comme un petit vent de travers pour Christine Fréchette parce qu'elle aurait tenté de trouver des appuis une semaine avant la démission de François Legault.
Exactement.
Et c'est ce qui semble avoir déplu à certains. Maintenant... Ouais. Est-ce que ça a déplu à une majorité ou ça a déplu à une personne puis il a décidé de pisser ça dans l'oreille des journalistes? C'est une bonne question.
Apparemment qu'il y a plusieurs employés militants qui n'étaient pas satisfaits de connaître cette information-là, mais là, à savoir son combien.
Mark Carney a lancé la campagne référendaire avec son discours de la semaine passée sur les plaines. C'est du moins ce que croit Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef péquiste, qui a livré un discours au Congrès du Parti québécois hier et a vivement répondu aux paroles du premier ministre canadien. Rappelons que sa sortie de jeudi dernier sur les plaines fait réagir. Il avait dit que les plaines d'Abraham symbolisent un champ de bataille et aussi le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination, la collaboration plutôt que la division. Et pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, le Québec n'existe pas grâce au Canada, mais a plutôt survécu dans sa différence et dans sa spécificité, malgré le Canada, malgré toutes les tentatives de sabotage et d'assimilation. Concernant les propositions adoptées au Congrès, l'idée de la passe climat qui donnerait accès illimité là, à toutes les sociétés de transport en commun du Québec pour 365$ par année, ça devrait à nouveau être une promesse électorale. Le PQ qui réitère aussi son engagement à aller de l'avant avec la réforme du mode de scrutin. Il y a des propositions concernant la défense de la langue française et du patrimoine, des histoires d'augmenter les redevances sur l'eau également. Fait que c'est le genre de truc dont on a parlé en fin de semaine.
La passe climat, ça c'est exemple, ça me coûte 330$, puis là j'ai accès au RTC pour toute l'année.
Ouais, et RTC, mais aussi si tu vas, je sais pas, au Saguenay, si tu vas à Sherbrooke, si tu vas à Montréal, tu as accès aux transports publics.
Hey, c'est excitant, ça, service de transport à Sept-Îles pour quelqu'un de Québec. C'est...
Non, mais juste pour Québec-Montréal, je trouve que c'est intéressant.
Ouais. Ouais. Ça coûte combien, 336?
J'avais écrit 365. Là,
tu ça se peut, 365, ouais, c'est moi qui avais mal compris.
C'est ça, c'est le principe d'un dollar par année, c'est 365.
Ouais, un dollar par jour.
Mais je trouve ça parce que moi, le RTC, je mettrais ça gratuit. Là. Honnêtement, je le mettrais gratuit, puis je ferais en sorte que l'argent qu'on donne au RTC, ben, ce soit utilisé à bon escient, puis qu'il rentre dans le budget qu'on leur a octroyé au départ. Mais le transport en commun, je pense qu'on est rendu à un moment où on doit le mettre gratuit.
En le mettant gratuit, oui. C'est 30% du budget qui est récupéré à même les passagers.
Fait que c'est subventionné à
70%. À 70%. Alors, oui, en effet, ils sont donné la petite coche additionnelle. Le problème, c'est que si tu le fais... Non, tu préfères pour le RTC, puis c'est la ville qui décide de mettre la coche additionnelle. Bon, encore là, il faut que la ville coupe ailleurs par la suite là, pour pas que les taxes en général augmentent.
Ou d'aller chercher plus de commanditaires.
En effet.
Tu sais, c'est... je sais pas.
Il y a de la place à augmenter le budget de commandite au niveau du RTC.
Cette semaine, le transport en commun vous est offert par, Leclerc Communication.
Oui. T'as raison.
C'est 6:42. Vous avez des choses à nous dire? 418-971-1021. 418-971-1021.
Marceau le matin.